Alors nous sommes ici au Jardin d'hiver à Saint-Malo, au quartier de la Madeleine, qui accueille de nombreuses initiatives sociales et écologiques. Nous sommes avec Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Mathieu, vous participez à la fresque des mobilités, organisée notamment par une association qui s'intitule les Shifters, c'est bien ça. Tout simplement, donc une fresque des mobilités qui aura lieu lundi prochain, ici même, au Jardin d'hiver, au quartier de la Madeleine de Saint-Malo. Est-ce que tout simplement vous pourriez nous expliquer, ce qu'est une fresque de la mobilité, et deux, cette association qui est organisée notamment par cette association, les Shifters?
Oui, alors les Shifters, c'est une asso qui est née il y a quelques années, qui est une asso affiliée au Shift Project, qui est un groupe de réflexion qui a été créé notamment par Jean-Marc Jancovici. Je le nomme parce qu'il est assez médiatique et je pense que les gens voient à peu près qui c'est. Et c'est une asso qui s'intéresse à la décarbonation de l'économie française, grosso modo, et qui réalise plusieurs travaux et projets, notamment, donc, ça va de la rédaction d'articles ou de dossiers sur des thématiques spécifiques, à des ateliers un peu de sensibilisation et de compréhension de sujets pour les citoyens, mais aussi pour les collectivités et les entreprises. Et c'est le cas notamment donc de la fresque de la mobilité, qui sera donc déployée lundi 15 de 18h à 20h au Jardin d'hiver, dans sa version citoyenne. Donc la fresque de la mobilité, c'est quoi? C'est un atelier citoyen, participatif, qui propose d'interroger les habitudes de déplacement des individus. Là, on n'est pas sur le transport ni de marchandises, ni des entreprises, etc., mais vraiment des individus, pour questionner un peu le rapport à la voiture individuelle, à l'avion, au train, à la marche, au vélo, etc. Et puis pour donner vraiment des billes de compréhension aux personnes pour comprendre ce qui se cache derrière les enjeux de mobilité, que ce soit en termes d'énergie, de déplacement, de prise, ou d'espace public, en tout cas, et de partage d'espace public, et aussi pour essayer de, pourquoi pas, amener vers un changement, shift en anglais, switcher, je sais pas, je traduis par de l'anglais, mais questionner et puis essayer de mettre en dynamique pour avoir du report modal vers de la marche, du vélo, de l'autopartage, du covoiturage, etc., différentes alternatives à la voiture individuelle.
Est-ce que vous pourriez nous donner justement la mesure aussi du fait de devoir faire cette transition-là en matière écologique, délaisser les moyens carbonés pour réutiliser des mobilités plus douces, comme on les appelle?
Pour faire très rapide, le transport des personnes, c'est responsable de quasiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, rien que sur la France. La voiture individuelle, elle est responsable de plus de la moitié de ces émissions-là. Donc la voiture individuelle, au niveau français, c'est 17% des émissions de gaz à effet de serre. Et on a aujourd'hui un déplacement, en tout cas en voiture thermique individuelle, qui est très dépendant du pétrole, qui va être une ressource qui va se raréfier. Et donc il faut réfléchir à des alternatives en France, mais on n'est pas forcément un mauvais élève, je parle de la France parce qu'on est en France, mais il y a 70% des déplacements qui font moins de 4 km et pourtant énormément de ces déplacements sont faits en voiture, et peut-être que pas partout et pas tout le temps, mais les transports en commun, la marche, le vélo, ça peut être des alternatives pour sortir de cette dépendance au pétrole qui, encore une fois, de toute façon, est une ressource qui va se raréfier. Et puis deux, ça a plein d'autres impacts, en fait, d'avoir une mobilité active, que ce soit sur la santé des personnes, sur l'économie, sur le partage de l'espace public, parce que on a des politiques qui sont tout voiture depuis les années 60 en France, et encore une fois, pas qu'en France. Mm-hmm. Mais ça devient de plus en plus compliqué, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, le partage de l'espace public est aujourd'hui pas évident, et je pense que c'est une réflexion collective qu'on peut mener.
Justement, en la matière, j'imagine qu'en fonction du contexte, les problématiques sont très différentes. Si on est en ville, si on est en pleine campagne, c'est aussi à cela que s'attachent les Shifters,
oui,
de réfléchir sur les modes de transport en fonction du lieu où on peut se situer.
Oui, alors les Shifters, c'est pas que, parce qu'encore une fois, vraiment le but des Shifters, au global, c'est vraiment de décarboner l'économie française. Donc le transport en est une composante, mais pas que. Mais oui, c'est sûr que les réalités ne sont pas du tout les mêmes qu'on vive à Paris, à Bordeaux, à Rennes, ou à Saint-Malo, qui est une ville de taille moyenne, ou alors à Combourg, et encore à Combourg, il y a des trains, donc je ne dis pas. Mais voilà, les problématiques ne sont pas les mêmes. L'idée, effectivement, aussi de la fraise de la mobilité, c'est de voir que il n'existe pas une solution qu'on peut déployer sur tous les territoires et à tous les types de profils, c'est certain. Et donc l'idée, c'est justement de réunir autour d'une table des profils variés qui peuvent aussi nous parler de leur expérience et de leur rapport à la mobilité pour voir, un, qu'effectivement, tout n'est pas duplicable partout, mais que des solutions peuvent exister et que oui, voilà, pour parler du vélo, par exemple, c'est sûr que c'est une solution qui est très efficace en ville, mais il existe des communautés de communes ou des agglos qui arrivent en périurbain, voire en rural, à promouvoir quand même l'essor du vélo aussi. Et puis voilà, c'est sûr que c'est un travail fastidieux, parce qu'encore une fois, on est dans un transport collectif. Les entreprises ont leur rôle à jouer aussi, en proposant du transport à leurs salariés, proposer, c'est ça, c'est ça, l'autostop mais organisé. Il y a des, par exemple, la Bretagne romantique, ils ont lancé de l'autostop organisé avec des bornes où tu peux choisir ta destination, etc. Et puis tu as des points vraiment spécifiques où tu peux faire de l'autostop, etc. Donc voilà, mais c'est un réel enjeu, parce que quand on parle de mobilité, c'est très vague aussi, mais il y a une notion dont là j'ai pas parlé, et puis c'est pas forcément le propos, mais c'est la notion de précarité mobilité. Le dernier rapport de WeMove est sorti là à la fin 2024, et c'est 15 millions de personnes qui sont en situation de précarité mobilité. Donc quasiment un adulte, un actif sur trois, on va dire, en situation de précarité de mobilité. Donc ça veut dire que c'est des gens dont la part du budget qui part dans la mobilité est très importante. On est entre 15 et 20, 25%, ce qui est énorme. Des gens qui doivent parfois renoncer à un rendez-vous médical ou à un emploi, faute de solutions de mobilité, etc. Et donc voilà, on a beaucoup prôné la voiture individuelle comme la solution un peu pareille, applicable partout. C'est pas forcément le cas, et c'est notamment aussi ce que permet de voir la fraise de la mobilité, parce que après toute une partie panorama, il y a un peu une partie jeu, où on se met à la place de personnes avec des profils types et on doit répondre à des problématiques auxquelles ils et elles font face pour se déplacer, justement. Et on voit que parfois le recours à la voiture va être nécessaire, mais il va augmenter à la fois notre budget mobilité et à la fois nos émissions de gaz à effet de serre liées à ça aussi. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. L'idée, c'est d'en discuter sans être du tout dogmatique, mais que ça devienne un vrai sujet.
Très bien. Et pour cela, eh bien, justement, il y a ces moments, notamment la fresque de la mobilité que vous organisez. Rappelez-nous.
Oui, la fresque de la mobilité, donc on l'organise à Jardin d'Hiver le lundi 15 septembre de 18h à 20h. Et ça s'inscrit dans le cadre des Journées européennes de la mobilité, qui commence le lendemain, le mardi 16, c'est du 16 au 24. Et donc voilà, il y a plein d'autres événements un peu partout, sur Saint-Malo Aglo, sur Pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, sur Bretagne romantique. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher aussi des Comcom et des Aglo pour voir un peu la programmation qu'il peut y avoir.
Très bien. Merci à vous, Mathieu, pour cet entretien au Jardin d'Hiver autour des mobilités douces, de la fresque de la mobilité. Merci à vous.
Bonne journée.
Esperanzas de tu puño, algo cariñoso, y has de tu adiós una y mi amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando mija qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo muy lista pobre boba dedicarte a la eterna disección Mujer, desnúdate y estate quieta. A ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza Es de tu puño algo cariñoso Y es de tu adiós un año amor Y de tu seña una sonrisita Y de tu fuga un ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte Dejando olvidado a tu Esta pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, vístate quieta. A ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría. Salud y a veces
Alors, nous sommes ici à Saint-Malo, plus précisément dans le quartier de la Madeleine, avec José Agueda et Hassan Djedlek, qui sont les fondateurs et qui sont les gérants du Jardin d'Hiver, qui est un restaurant, mais qui n'est pas qu'un restaurant, mais qui est aussi c'est un bistrot, donc en plein quartier de la Madeleine. Est-ce que tout simplement vous pourriez eh bien, nous expliquer pourquoi tout simplement ce nom Jardin d'Hiver, d'Hiver, D-I-V-E-R-S ?
Diversité dans ce quartier où il y a autant de propriétaires que des habitants de logements sociaux, diversité culturelle, diversité qu'on voulait représenter dans notre cuisine à travers nos plats, à travers notre offre de restauration et nos boissons. Et voilà, et que la France, comme on dit, est issue de diversité.
José.
Ouais, ouais, bah, tout à fait d'accord. Hein. La diversité, elle est bien représentée au quotidien dans ce qu'on fait, parmi les publics qui viennent ici, des plus petits aux plus grands, puisqu'on a de la cabane pour enfants où les plus jeunes peuvent venir s'amuser, mais on a aussi des plus âgés qui viennent pour certaines activités qu'on propose ici. Et puis effectivement, la diversité des produits essentiellement issu de cultures maraîchères bio et locales, qui est travaillée par Hassan et par Noé, notre cuisinière, au travers de leurs inspirations et des inspirations des cuisines du monde.
Très bien. Depuis quand existe ce lieu ?
Alors, le 4 avril, nous avons fêté notre un an. Donc, ça fait un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant. Et puis, avant qu'on s'installe, le lieu était fermé depuis 8 mois. C'était un ancien bar. Et aujourd'hui, c'est plus un bistrot. On accueille les gens de 9h à 21h, salon de thé. Mais la vocation d'être un bistrot de quartier, le cœur de quartier. Donc, comme là, vous voyez, nos petites copines commencent à venir. L'atelier de tricot et papote et crochet va démarrer jusqu'à 18h, 19h. On va rigoler. Et ben voilà, la Thérèse, 94 ans. On a fêté son anniversaire la semaine dernière. Et voilà, donc on essaye d'être là 9h à 21h. À chaque heure, à ses habitués. Sortie d'école pour les petits gâteaux, tisane, thé. Bonjour. Et puis le soir, des gens qui travaillent ou qui rentrent du travail, qui passent par un coup. Midi, on tourne beaucoup avec notre cuisine. Et puis, on s'apprête à ouvrir un petit boulangerie, un micro-boulangerie-pâtisserie aussi, pour venir étoffer l'offre et dynamiser un peu la matinée.
Alors, c'est un lieu qui a pour but la restauration, mais qui ne se limite pas justement qu'à cela. Il y a aussi effectivement différentes activités que vous pouvez accueillir ici, comme vous le disiez à l'instant. C'est un lieu de vie qui semble être important dans le projet Jardin d'hiver.
C'est clairement
dans un quartier populaire de Saint-Malo.
C'est ça. En fait, quand on est arrivé ici il y a presque un an et demi, on s'est aperçu que la vie de quartier était quasi inexistante. Le lien ne était très peu entretenu entre les populations. Et on a vite compris que un rôle serait de justement dynamiser ce lien au travers effectivement d'activités qu'on propose, mais aussi beaucoup parmi ces activités, ce sont des initiatives de clients et de clientes qui avaient envie de faire des choses, qui proposent le tricot et papote. C'est une cliente au départ qui nous a proposé de venir créer un petit groupe, et puis le groupe s'est étoffé, on est aujourd'hui à une quinzaine de personnes. C'est aussi créer du lien autour de festivités. On a organisé une fête de la musique. Ces derniers jours, on avait un orchestre itinérant à vélo qui est venu se poser ici, les oiseaux de trottoir, et qui est venu se poser chez nous. Et la population du quartier était ravie. Ravie des actions qu'on prend entre guillemets en charge, un petit peu en marge de la municipalité qui a un peu déserté les quartiers sur Saint-Malo et favorisé plutôt une vie de tourisme. Et voilà.
Donc il y a vraiment cette dimension aussi de création de liens sociaux, de lieux de...
Un quartier, mais quand même, on s'est vite rendu compte que le rayonnement est allé au-delà du quartier. On attire une large public militante ou comment dire, un peu attentionné à tous ces sujets d'écologie, de bien-être, de lutte sociale. Et du coup, on a du monde qui vient un peu partout de Saint-Malo aujourd'hui, même au-delà de Saint-Malo. On commence à parler de jardin d'hiver. Et le fait que M. Rollinger il a fait une petite note sur notre cuisine. On a un référent un peu pour nous, le monde de cuisine, dans le monde de bien manger, respect de la terre et de la nature, qui se distingue des autres approches de cuisine. Et avec Olivier, Marie, ils ont été à l'origine d'une guide de bien manger en Bretagne qui s'appelle Pure Beurre. Dès leur première édition, ils nous ont accordé une place et ça nous a fait chaud au cœur. Puis on a eu le coup de cœur de Petit Futé, puis quelques critiques d'amis, copains, et qui nous a fait un bien fou. Et voilà, à la fois on fait de bon manger grâce à des copains paysannes qui nous fournissent des excellents produits. Et à la fois le bistrot devient un cœur battant du quartier et un lieu de lutte pour Saint-Malo, autour de Saint-Malo. Du coup, on est fiers de ce qu'on a réussi à accomplir en un an seulement. Et les perspectives, elles sont jolies. Et on a hâte de passer en statut coopératif, en SCOP, avec Noé, qu'elle est venue rejoindre à notre équipe. Sophie, et qu'elle commence au mois d'octobre. Et on sera 6 en un an et demi. On monte de 2 à 6. C'est une très, très belle aventure. Et quand j'ai vu les lieux, je suis tombé sous le charme. On a 4 façades de l'établissement en baie vitrée. On dirait qu'on est dans un serre ici, d'où on appelait jardin, d'où on a autant de plantes, autant de verdure dans l'établissement. J'ai commencé à même cultiver des piments, des tomates, pas mal de plantes qu'on peut consommer. On a fait un petit bocal de piments qui sont en train de faire monter là-bas près de la fenêtre dans de l'huile, qu'on a appelé la PS, goût de la trahison. Elle est excellente comme piment. Et on a aussi des herbes aromatiques, on a pas mal de choses. Voilà, donc c'est vraiment pur hasard, le lieu, le quartier, même la ville, c'est un pur hasard, au hasard des choses.
Tout simplement, pour ce qui est de la nourriture, que vous, enfin, les plats que vous proposez, vous parliez de diversité, j'imagine que vous travaillez avec des producteurs locaux et puis bio.
Alors l'essentiel de nos producteurs, ce sont des paysans et paysannes, souvent, très souvent, c'est des amis, des copains. Il ne faut pas oublier que depuis 2012, je suis dans le métier de restauration. Donc avec certains, on a 13, 14 années, 15 années d'ancienneté, comme le moulin où on achète notre farine. C'est le dernier moulin sur Rimou qui tourne encore, qui moule farine sur des pierres. Et donc on a une ancienneté de 14 années, comme la copain Pierre-Yves, Crèmerie de la Rance, pour nos beurres, crèmes. Des volailles, des cochons, Jean-Sébastien à Saint-Perne. Bon, on s'est approché plutôt pour les maraîchers, pour un peu localiser. Mais, donc c'est les paysans, paysannes, copains. Et on travaille, comme on dit, les produits d'ici, les recettes ailleurs. On essaie de toucher autrement, faire une cuisine un peu qui sort un peu du lot, même si on a fait des kikafars, la plat emblématique des Bretons d'autrefois cet hiver, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui cuisinaient, il y avait beaucoup qui nous réclamaient, mais on reste quand même dans cette touche d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme ma collègue Noé, qui était formée à l'école gastronomique à Tokyo, qui est avec ses origines japonaises, elle nous amène une autre touche encore plus. Ça fait un cure d'un Japonais, un Portugais qui tient un bistrot. Ben forcément, ça donne un chouette voyage dans la cuisine. Et puis, oui, on est tout en bio. L'essentiel de nos producteurs sont à la Confédération Paysanne. Et pendant la journée de festivité de 4 avril, le jour de l'inauguration, nous avions privatisé la place. Et tous nos copains producteurs étaient sur place à tenir une marché pour notre anniversaire, et on pouvait rencontrer, et vu le succès, je pense que l'année prochaine on fera la même chose. Le premier vendredi de mois d'avril, on fêtera notre 2 ans, et voilà, si d'ici là les amis, les copains qui nous écoutent, ils peuvent pas venir, mais ne ratez pas les occasions, on a souvent des gros moments de festivité autour de bistrot.
Il y a une manière de faire de la restauration, c'est une autre manière aussi que vous proposez de faire de la restauration. Est-ce qu'on peut le voir comme ça aussi ? Avec son environnement, avec les autres, avec... voilà.
C'est vraiment la vie du bistrot. C'est vraiment la vie du bistrot qui propose un temps fort de restauration, mais qui n'est pas que un lieu de restauration. C'est vraiment le lieu de vie.
Lieu de vie, on essaie de débloquer, même si ceux qui n'ont pas les moyens, même, il ne faut pas que l'argent soit un frein. Du coup, on a les infusions qui sont en... libre-service, les gens ils servent comme ils veulent. Nous avons les thés, les cafés, ils sont libre-service et libre-prix. Nous avons une caisse de solidarité où on met tous nos pourboires et que nos clients participent. Dès qu'on arrive à une petite somme, on accroche des plats avec des tickets à la porte. Du coup, ça permet à des gens de venir manger ou venir participer à nos soirées avec repas. Il y a des familles entières qui profitent de ce système-là. Et voilà, l'idée, le fait qu'on fait c'est des relais colis aussi, vraiment essayer de sortir de notre service de midi et la cuisine, plutôt de matin au soir, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps de vie, et ça grouille du monde, et qu'il y a une activité, et chacun trouve son compte, qu'on ne reste pas, les gens ne restent pas isolés seuls chez eux. Il y a vraiment toute une politique autour de ça.
Ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on s'aperçoit que bah, effectivement, ce lien, il fonctionne. Les gens ne sont pas sur leur téléphone quand ils sont ici. Il se passe toujours quelque chose. Ils sont impliqués, ils se retrouvent vite à discuter les uns avec les autres. Et quand on fait des soirées, d'ailleurs, on ne fait pas des tables isolées, on fait plutôt des grandes tablées. Et on invite vraiment tout le monde à se réunir autour de ces tablées. Et du coup, des personnes qui peuvent être isolées par ailleurs bah, peuvent passer des moments avec d'autres, faire des connaissances alors que c'était seul chez elle au tricoté papote. On a des copines qui c'est leur activité de la semaine, c'est vraiment leur sortie, c'est vraiment un moment important aujourd'hui de leur vie de venir le jeudi se retrouver avec les autres copines.
Merci à vous.
Avec plaisir.
Pour cet entretien, donc, José et Hassan, donc, qui êtes, je le rappelle, gérant, avec Noé aussi, qui est dans une future scope. Donc, qui est gérant, fondateur de ce lieu, le Jardin d'hiver, dans le quartier de la Madeleine à Saint-Malo. Merci à vous pour cet entretien. Donc.
Merci. Merci à toi, merci à vous de passer. Ça nous fait trop plaisir de vous accueillir.